L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo et Radio Territoria pour l'AREF, la rentrée des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF. C'est Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Comment ça va?
C'est notre premier plateau de la saison.
Oui.
Je suis ravie de vous retrouver.
Voilà. Et vous êtes en pleine forme, Bérénice.
En pleine forme. Et je suis ravie de recevoir notre invitée, Alice Barbe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on vous connaît en tant que cofondatrice de l'ONG Singa, et vous avez fondé également l'Académie des futurs leaders. Alors, on a assisté au débat, justement, sur la démographie qui a eu lieu sur la scène du MEDEF, de la REF. Alors justement, un petit rappel peut-être de votre parcours. Vous avez donc cofondé Singa, qui est une ONG internationale maintenant, qui est née en France et qui est maintenant à l'international.
Oui.
Vous en avez même au début, vous avez pris la présidence à un moment donné au niveau global, de Singa Global.
Oui. Alors, l'histoire de Singa, c'est que c'est une aventure d'une bande de copains au départ. On a commencé à parler de migration en 2012. On avait 25 ans, on était trois à avoir envie de parler de migration sous un angle qui ne soit ni sécuritaire ni humanitaire et créer un autre narratif. Et c'est pour ça que quand l'ONG s'est développée, on est devenu le premier réseau d'incubateurs d'entreprises d'innovation autour de la migration en Europe. Mais on s'est aussi tourné vers tout un tas d'aventures technologiques. On a monté la première plateforme d'accueil chez l'habitant, j'accueille.fr, en 2015. Et aujourd'hui, on travaille à accompagner tout un tas d'organisations qui innovent et essayent de porter un autre discours sur la migration.
Donc plutôt côté professionnel, en fait. Ça tourne plus au niveau du professionnel, autour du professionnel.
C'est de l'entrepreneuriat et c'est de l'innovation. C'est évidemment, Singa, on ne s'est jamais positionné comme étant des acteurs de l'aide sociale. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça très bien. Nous, on voulait apporter un autre regard et parler d'entrepreneuriat, ça nous permet d'accompagner des entreprises comme Welcome Place, qui est une néobanque qui permet à des personnes réfugiées d'avoir accès plus facilement à des comptes bancaires. C'est une aventure qui est devenue effectivement européenne parce que en fait, le concept a marché. On est aussi un mouvement citoyen. On a 80 000 membres qui organisent des activités tous les jours, qui créent de la rencontre.
Oui, c'est
entre
8 pays, une dizaine d'incubateurs.
Ouais. Canada, Europe, ouais, une dizaine d'incubateurs.
Vous l'avez créé avec Guillaume Capel.
Et Nathanaël Moll, ouais, oui.
Absolument. D'ailleurs, vous avez été très, très rapidement récompensé. Je regarde, vous avez eu le prix de l'innovation interculturelle de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez aussi reçu le prix mondial du pluralisme, mais en fait, l'angle que vous avez, le prisme que vous avez, c'est pourquoi ne pas évoquer finalement les migrants sous un angle créatif, de richesse, d'intelligence, d'échange. Un angle économique, finalement. Même
et pas qu'économique, aussi, en termes culturels,
oui,
de rencontres, de tomber amoureux.
Mais c'est presque même dépourvu. Enfin, vous allez m'y répondre, mais est-ce que c'est presque dépourvu, quand on lit un petit peu le parcours, d'opinion politique? Pour vous, il n'y a pas finalement d'opinion. On est pas...
Alors,
certains vous taxent de gauche ou de droite ou du centre, mais est-ce qu'on peut s'affranchir, et c'est le sens de la question, d'une orientation, quelle que soit politique, pour dire finalement. Je vais chercher dans le migrant, entre guillemets, ce qui peut nous apporter le plus. Et finalement, in fine, c'est une richesse.
Tout est politique, tout le temps. Cet été, on a assisté à des cruautés inhumaines autour de la migration. On a assisté au gouverneur du Texas qui a mis en place des bouées avec des lames de manière à ce que les gens qui veulent traverser le Rio Grande pour atterrir aux États-Unis meurent, tout simplement. Il y a eu deux personnes qui sont décédées. Le Royaume-Uni vient de mettre en place un hébergement d'urgence sur bouée, sur la Manche. La Tunisie a abandonné des centaines de personnes en plein désert sans eau et sans nourriture. Donc je ne suis pas sûre que quand on parle de migration, ça puisse être apolitique. Nous, on essaye de parler de migration autrement, sur un récit qui embarque. Le problème aujourd'hui, et c'est pour ça que...
Sur un récit qui embarque, c'était le sens.
Qui embarque,
je suis d'accord
et
avec
qui fasse rêver. Le problème aujourd'hui, c'est que la question de la migration, c'est un peu le précaré de l'extrême droite. C'est le sujet le plus clivant, le plus polarisant. Moi, Singa, j'ai vécu les 10 meilleures années de ma vie. Mais à un moment, je suis partie. parce que Marine Le Pen passe toujours au second tour et maintenant il n'y a plus personne pour se mobiliser dans la rue quand ça arrive. Et pour moi, ce sujet-là, quand je dis tout est politique, c'est politique et il en va de la démocratie. Moi, je viens d'une famille dans laquelle on m'expliquait que le maréchal Pétain avait sauvé la France et que les Juifs étaient morts du typhus. Je pensais que ces idées-là allaient mourir, or pas du tout. Aujourd'hui, c'est des idées qui sont exprimées autrement. C'est des mots qui sont dits différemment, c'est des mots qui sont dits sur des réseaux sociaux, avec des influenceurs sur TikTok, c'est des mots qui sont dits par de la presse d'extrême droite aussi, que ce soit F de Souche, Riposte Laïque, Boulevard Voltaire ou autre. C'est, y a une énorme banalisation de la haine et de la polarisation et du fait de rejeter l'autre parce qu'il est. Il y a vraiment la banalisation du « eux » versus « nous ». On est sur de la crispation identitaire. Ce que je fais aujourd'hui, c'est... je travaille en politique, j'ai monté une école politique pour accompagner une nouvelle génération de leaders politiques avec cette idée que le vrai sujet, quand on parle de démographie, c'est le sujet de l'identité, c'est de comment on fait société ensemble. C'est pas juste le sujet de la migration, parce que quoi qu'on fasse, la migration, elle est là, elle arrive. Mais comment on fait pour vivre dans un pays qui ne tue pas les gens en fonction de leur couleur de peau, qui ne finance pas des armes, notamment Frontex a mis en place à la frontière grecque des armes pour que avec des ultrasons qui font péter les tympans des gens qui essayent de traverser la frontière.
C'est très juste. Hein.
Comment on fait en sorte d'avoir ce pays-là dans lequel on va voter sur quelque chose de progressiste et une histoire qui va embarquer, contrairement à celle du camp d'en face.
Après, moi, j'irai plus loin dans vos propos. Je pense que le sujet qui incite à la violence, à la haine, c'est pas vraiment les migrants. Je pense qu'en fait, le problème, c'est les réseaux sociaux. Parce que tout est prétexte à la haine. Là, vous citez évidemment l'extrême droite, qu'on cautionne pas du tout, qui incite à la haine, etc. Il y a aussi l'extrême gauche qui incite à la haine sur ces mêmes réseaux, en parlant des policiers, des gendarmes. Et c'est pareil, c'est casser du flic.
Mais on n'est pas forcément d'extrême gauche.
En fait,
vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que, en fait,
c'est pour moi, c'est vraiment les extrêmes.
Alors c'est ce qu'on observe. On se dit voilà, l'extrême gauche serait pour les migrants et l'extrême droite serait contre les migrants. Le raccourci est un peu court. On est d'accord.
C'est un peu court.
Alors, en France, on compte à peu près 50 influenceurs d'extrême droite qui font plus d'un million de vues par mois. Côté extrême gauche, je crois qu'il y en a un. Les moyens et les ressources.
L'extrême gauche est soutenue par de nombreux artistes.
Ça dépend comment on va quantifier l'extrême gauche, mais si on se rend
compte. Jean-Luc Mélenchon
est
soutenu par de nombreux artistes français.
Oui.
Qui sont soutenus par des.
Et Marine Le Pen également, mais là je parle des. Des influenceurs.
Oui, mais on n'est pas.
Des acteurs politiques.
On n'est pas là pour faire une comptabilité de savoir qui soutient qui.
Ouais.
Moi, la question que je vous pose, Alice Barbe, parce que je vous le dis très franchement, moi je suis très sensible à vos idées, extrêmement sensible à vos idées, puisque je suis le creuset même de l'immigration par excellence. C'est ce que je suis. C'est ce qui me définit aujourd'hui. Mais. La question que je vous pose, elle est importante et Bérénice a raison quand elle dit est-ce que lorsqu'on se dit de gauche ou d'extrême gauche, on est forcément qualifié, vous savez, un peu dans l'idée de ce fameux débat entre Giscard et Mitterrand, de celui qui a le plus de cœur et de celui qui n'en a pas. Vous voyez ce que je veux dire ?
Absolument.
Entre le discours de droite qui dit c'est bon pour moi, vous savez, le discours de droite c'est j'ai de l'argent, je suis un conservateur, je suis pétainiste, etc. Et puis tout ce qui vient de l'étranger, ça me fait peur.
Je crois que
quand on est de gauche, on est forcément.
Il y a plusieurs sujets qui sont évoqués. Moi, j'utilise pas le terme gauche et droite, je me qualifie ni. Enfin, j'ai des opinions politiques et je pense qu'elles sont assez évidentes quand on regarde mon CV, mais c'est pas le cœur de mon travail aujourd'hui. Je pense qu'il y a un très très gros enjeu à défendre la démocratie. On a une histoire. On a une belle histoire aussi en France. Et si on ne protège pas la démocratie, on risque de voir s'effondrer toute une société, tout un pays. Surtout dans un contexte géopolitique, justement, où la démographie va jouer un très grand rôle. Je crois que la France va avoir le devoir, et l'Europe, d'être exemplaire sur les années à venir. Quand on voit...
C'est pas vraiment le cas. Hein.
Mais quand on voit la Chine,
quand
la Russie...
Quand on voit ce que fait la Grèce...
Les autocraties...
Quand on voit ce que fait les pays du Maghreb...
Bien sûr,
quand on voit ce que fait l'Italie... Heureusement qu'on a des ONG italiennes qu'on laisse crever des personnes qui prennent le bateau. Où on a vu des choses innommables cet été. Vous avez raison. Je suis scandalisé. Vous l'avez vu, Bérénice, aussi. C'est scandalisé. C'est énorme. À nos frontières, qu'on puisse vivre, aller en vacances tranquillement dans notre transat et voir qu'il y a des gens qui se font massacrer à côté sur notre territoire, le territoire européen, je trouve ça ignoble. Ignoble. Tout simplement ignoble. Et que même l'Europe puisse créer ou même songer à bâtir des murs, vous savez, comme Babylonadé, où on a deux mondes qui s'opposent entre ceux qui se gavent et ceux qui finalement essayent d'avoir juste un peu de soleil et un peu de quoi vivre, je trouve ça absolument scandaleux. Et là, je partage complètement votre point de vue. Et pourtant, je ne suis pas de gauche.
Justement.
Ça va.
C'est là qu'est le sujet, parce que je crois qu'il faut justement s'intéresser à la République. C'est pas la question d'être de gauche, de droite, pour qui on va voter.
On est d'accord.
Dans 10 ans, Mélenchon, plus personne. Enfin, peut-être que les gens se rappelleront de lui, mais je suis pas sûre qu'il ait un impact fondamental.
En fait, il est assez clivant, en fait. C'est le problème, c'est qui.
Donald Trump aussi.
Oui.
Il y a énormément de personnes clivantes. Le sujet, et ça, c'est hyper intéressant d'aller regarder un petit peu du côté des spin doctors, des ingénieurs du chaos. Il y a notamment ce livre de Giuliano d'Ampoli qui va analyser comment les spin doctors populistes, peu importe le camp, qui utilisent des techniques dites populistes, vont utiliser les algorithmes, le big data, pour créer l'histoire que les gens veulent entendre. Et l'histoire de Cambridge Analytica est tout à fait intéressante là-dessus, tout comme l'exemple de l'Italie où Steve Bannon, dirigeant de Cambridge Analytica, ancien conseiller de Donald Trump, va en Italie créer la fondation de l'union des partis populistes d'extrême droite, parce que lui, il sert à un agenda. Il va, comment on analyse l'utilisation de ces mécanismes et ces outils pour créer de nouvelles formes de pouvoir qui, justement, nuisent à un héritage démocratique. La démocratie, enfin, il y a plein de gens qui disent que ça n'existe pas. Je suis assez d'accord, ça n'existe pas. Ça fait 2 minutes que les femmes ont le droit de vote. 20 minutes.
Mais elle est menacée dans certains pays.
Mais totalement. Mais la démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend. L'histoire, ça fait des zigzags. C'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière, etc. Mais ultimement, moi, je crois fondamentalement qu'on va dans le bon sens. Mais pour aller dans le bon sens, il faut être conscient aussi des mécanismes qui peuvent se jouer. Un autre exemple sur le financement du populisme et de l'extrême droite, c'est, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 700 millions d'euros qui ont été dépensés ces 10 dernières années sur des campagnes anti-genre, anti-avortement, en France, les autocollants sur les Vélib. Cet argent, il vient notamment de fondations philanthropiques d'extrême droite et de Russes. Il y a un acteur, un oligarque russe qui s'appelle Malofev, il a organisé en 2014 le congrès des partis d'extrême droite à Vienne. Ils se forment entre eux, hein. Ils apprennent entre eux, ils font des choses ensemble. Bref, là, on part sur des considérations peut-être très politiques par rapport au sujet.
Je partage complètement votre point de vue.
Et en même temps, on est au MEDEF. On n'est pas à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donc la question, moi, que j'ai envie de poser quand je viens ici, c'est de dire, OK, peu importe si on est de droite ou de gauche, peu importe les étiquettes, la crispation identitaire, je suis pas d'accord, t'es d'accord, t'es féministe, t'es pro-migrant, t'es pas... Enfin, non. On a un énorme sujet aujourd'hui qui est de comment on défend nos acquis, on les garde et on met en place des mécanismes face à ceux qui veulent saper.
Et Véronique Bédac, tout à l'heure, a soulevé un problème, je crois, pendant le débat, hein, qui pour moi, concerne plus que la jeunesse. Elle a dit on traite extrêmement mal les jeunes en France. Et c'est vrai, les jeunes ne peuvent pas acheter. Et moi j'étendrais les jeunes, les migrants. Est-ce que ce serait pas ça le fond du problème, en fait? C'est que, en fait, les lois font en sorte, l'État fait en sorte qu'on est incapable de répondre aux besoins de notre jeunesse, des migrants qui arrivent. On est incapable de gérer.
Ça, c'est la question de pour qui on vote à la fin de la journée. Si on a un État comme en Italie, où la première chose qu'a fait Meloni, c'est supprimer le RSA. Et aujourd'hui, mettant en danger la vie de millions d'enfants en supprimant le fait qu'ils puissent avoir 2 mamans,
Justement, je voudrais vous faire réfléchir.
C'est les jeunes, c'est les vieux, c'est les malades, c'est les femmes, c'est les personnes musulmanes aussi qui sont victimes de discrimination. C'est toutes les personnes qui sont victimes de discrimination.
Alors, moi j'aime bien votre discours sur l'idée de la défense de la démocratie comme un corps, comme quelque chose d'organique.
Et de la République.
Qui se soutient au quotidien. Et j'aimerais vous renvoyer sur le sociologue Alberto Brandolini. Vous connaissez la loi de Brandolini ?
Non.
L'asymétrie des baratins. Vous connaissez ?
Non.
La symétrie des baratins, c'est le coefficient d'énergie qu'il vous faut pour démonter une fake news
est
10 fois supérieur à celui qui balance une fausse information.
Oui.
Concrètement,
balance une vraie information.
Voilà, une vraie information, pardon. Par contre, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans un débat, voilà ce que dit Brandolini, quand tu dis une connerie, une chose qui est fausse, et que la personne en face essaye de démonter l'argument, elle perd systématiquement. Sur l'autel de l'émotion, de la dictature, de l'immédiat et de la réaction. Et les réseaux sociaux, comme l'a rappelé Bérénice, n'ont absolument rien arrangé à l'affaire, bien évidemment. Ce qui fait qu'en fait, on voit poindre...
C'est de l'argent sur deux clics. C'est le modèle économique intégral des réseaux sociaux.
Non, mais c'est pire sur... que ça. C'est pire que ça. Et...
De l'argent sur deux clics, rarement... absolument. Devenez milliardaire en deux mois.
C'est pire que ça. Ça abrutit la jeunesse. Enfin... oui. Jacques Attali, tout à l'heure, lors du débat, a soulevé aussi un point important. Ce qui est fondamental, c'est la formation et l'éducation. Mmh. La formation des jeunes, l'éducation des jeunes, les réseaux sociaux, pour moi, c'est anti-éducation, anti-formation. Quand on voit TikTok, où on fait défiler les vidéos, mais j'ai essayé une ou deux fois, mais ça abrutit le cerveau. Alors, enfin, c'est pas possible.
Trois points en réponse à ça. Le premier, c'est que sur le démontage de fake news et le coefficient d'énergie, un emoji colère sur Facebook, ça vaut un like. Un emoji like, ça vaut 5 emojis colère. Donc les gens ont beaucoup plus tendance à mettre de l'emoji colère, ça rapporte plus, ça fructifie du coup, parce qu'un clic, c'est de l'argent, c'est de la visibilité, c'est du contenu qui tourne, donc ça rapporte de l'argent de créer de la colère. Et ça, c'est un fonds de commerce.
Comme de manipuler des idées sans contenu.
À plein d'égards, voilà, l'émotion.
Le hashtag... Et qui appauvrit, ça appauvrit le discours politique, ça appauvrit la conscience civique,
non, mais tout ça
et donc ça appauvrit la République et la
démocratie. Lors de l'assassinat de Lola, le nom de domaine Justice pour Lola a directement été acheté par des groupuscules plutôt anti-mariage pour tous là. Donc tout ça, il y a une technologie du clic. Il y a aussi en Russie, à Saint-Pétersbourg, le groupe Wagner détient
la fameuse agence qui
l'IRA, l'Internet Research Agency. Il y a 400 salariés dont le job c'est d'aller troller dans la même minute. Ils vont aller voir Sandrine Rousseau et tweeter mais quel méchant, nous on aime la viande, et ensuite vont aller tweeter d'autres choses en disant mais non, il faut être vegan. C'est des mecs qui sont payés pour faire ça. Donc il y a ce premier enjeu. Sur le deuxième enjeu de l'éducation, ce qui est très intéressant, c'est que la Chine a développé un autre TikTok pour la jeunesse
avec
chinoise.
Avec un autre algorithme.
Voilà. Donc on va rendre les gens à l'international un peu débiles, mais nous, on
est
uniquement
sur
des contenus,
en fait.
Absolument, d'apprentissage de savoir qualitatif, d'éducation et de qualité. Et pour moi, évidemment, la question de la formation, elle est au cœur, et c'est pas pour rien que j'ai monté une école avec cette ambition d'accompagner des personnes qui veulent se lancer en politique, qui font de la politique tous les jours au quotidien sans le savoir, des gens qui se battent contre le mal logement, pour la démocratie, pour le climat, pour une finance durable. Moi, mon enjeu, c'est d'aller les dénicher, d'en accompagner une centaine d'ici à 2027 et qu'ils prennent le pouvoir, parce qu'on n'est pas là pour prendre le thé, en fait. On est là aussi pour prendre le pouvoir, pour préserver la démocratie.
Donc le but, c'est quoi ? Former des futurs présidents, c'est ça ?
Pas que, des maires, des élus locaux, et pas forcément
que en
politique.
Donc ça veut dire que c'est les prémices de la création d'un parti, d'une orientation politique ? Non ?
Non.
Est-ce qu'on peut, par exemple, monter aux affaires ? Avoir un projet politique au sens étymologique du mot, sans forcément avoir une souche idéologique, mais plutôt une souche à la fois pragmatique, très humaniste, très orientée.
Bon, on fait ce qu'on veut.
Ouais.
Moi, j'ai pas monté.
Pour vous, c'est la solution. Parce que quand on vous écoute des fois, ben, c'est dur à entendre, on est d'accord. C'est même assez terrifiant. Et on a ce sentiment d'impuissance qui nous qualifie.
Il faut venir à l'académie parce qu'il y a plein de joie et d'optimisme.
Oui, justement. Et si vous nous invitez, on viendra.
Avec
je vous promets qu'on fera un plateau. Parce que ça m'intéresse énormément, ce que vous dites. La seule chose que je vois, c'est que je vois cette masse critique avec une certaine sidération, voire même de peur, de crainte, où je vois que les choses basculent. Vous avez vu les dernières statistiques et les indicateurs d'opinion sur les prochaines élections présidentielles. Elles me foutent les jetons. Elles me foutent les jetons, pourquoi ? Parce que j'avais l'âge de descendre dans la rue pour « Touche pas à mon pote ». J'étais là à l'époque, lorsque le PFN, à l'époque, s'appelait Parti des Forces Nouvelles, avec Jean-Marie Le Pen, s'était développé. Nous étions là, nous avons tous manifesté, etc. Moi, j'ai commencé par le Nicaragua et puis j'ai fini par les retraites. C'était moins drôle, finalement. Quelque part, je trouve que dans le combat idéologique, on a perdu quelque chose qui faisait peut-être la noblesse. Est-ce que c'est une vision romantique d'une jeunesse perdue ?
Pas que.
Pas, vous voyez, ça
pas que, mais vous avez tout à fait raison sur un point essentiel, c'est que les partis ne jouent plus leur rôle de formation, peu importe le parti d'ailleurs, les partis républicains et démocrates ne jouent plus ce rôle. Avant, on pouvait sortir de la messe et aller se retrouver entre gens de droite et créer du commun. On était à l'usine et on se retrouvait entre personnes communistes. Il y avait ça. Aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une désaffection des partis politiques. Ils ont peu de ressources. Ils ont du mal à former, ils ont du mal à mobiliser, ils ont du mal à comprendre aussi les nouvelles formes d'engagement, d'activisme. Ça, c'est un point. Mais du coup, il y a une nouvelle forme d'activisme et d'engagement. Les Français, et surtout les jeunes, n'ont jamais été aussi engagés. Et ça, c'est vraiment, c'est les chiffres de la Fondation Jean Jaurès.
Ouais, c'est les tendances.
Ils votent pas, Mais ils s'engagent, ils se mobilisent autrement. On voit, bon, il y a les jeunes climats, il y a MeToo, il y a plein de sujets qui nous ont interpellés, nous ont mobilisés, qui, moi, me mobilisent et m'interpellent. Donc on est face quand même à une belle génération de gens qui... Mais moi, à 16 ans, je fumais des pétards dans le Larzac, en fait. Je n'étais pas en train de me mobiliser, de m'organiser, d'essayer de penser le long terme. Ça ne m'intéressait pas forcément. Et sur la montée de l'extrême droite, 44% des gens, des votants, ont voté pour Marine Le Pen aux dernières élections. Ouais. Ces gens, ils sont français aussi.
Et vous avez vu, sur les trois dernières élections, y compris celle du père, on voit crescendo évoluer le curseur, vous avez vu ?
Mais parce qu'elle
On passe de 88-12 aujourd'hui à 44%.
Mais ce n'est pas que Marine Le Pen le sujet, c'est 44%.
Non, mais on voit bien, c'est pas Marine Le Pen.
Il y a de la souffrance.
De l'incompréhension.
Il y a de la peur. Oui. Moi, j'ai peur. J'ai un fils de 7 ans. J'ai peur qu'il ne puisse pas être soigné aux urgences. J'ai peur, moi, de marcher dans la rue et de me faire agresser parce que je suis une femme. J'ai peur de pas pouvoir payer mon crédit immobilier. J'ai peur. On a tous peur. On vit dans une société aussi, des sociétés, dans un monde intégralement anxiogène. Et donc, quand on a quelqu'un qui arrive avec ce terrain énorme de peur et qui dit... C'est l'Europe, c'est les réfugiés, c'est l'élite... c'est l'autre, c'est l'homosexuel.
C'est un grand classique.
C'est facile.
C'est un grand classique.
Qu'est-ce qu'on fait en face ?
Alice, aujourd'hui, je vais vous citer quelques pays qui ont dérivé ces dernières années. L'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, qui commencent à avoir des signes qui ne sont pas encourageants. Et entre le discours de François Mitterrand, quand il quitte l'hémicycle au Parlement européen, c'est très touchant cette image. Il disait... Restez fidèles à l'idée européenne, car le nationalisme, c'est la guerre. Vous vous rappelez cette phrase très puissante qu'il a dit ? Et on voit, crescendo, depuis 20 ans, inexorablement, glisser les pays d'Europe vers un retour identitaire, un retour unitaire, qui est en train d'ébranler complètement la machine européenne, à part le socle qui financerait éventuellement les organisations. À cela se mêle une nouvelle génération de politiques qui, permettez-moi de vous le dire, n'est pas du tout à la hauteur. Et on peut comprendre pourquoi. Mais c'est en prendre plein la gueule que d'être politique aujourd'hui.
C'est avoir sa voiture cramée, c'est avoir son logement aussi brûlé, c'est recevoir de la haine.
Si vous vous énervez dans un restaurant ou dans un supermarché, eh bien, on vous qualifierait tout de suite de sexiste, de ci, etc., etc. Aujourd'hui, en fait, on n'a aucune prime à être politique. Et donc, on a aussi le miroir inverse qui fait qu'on a une population qui se trouve face à une classe politique dont finalement elle a bien mérité des éléments dans une certaine mesure. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça et qu'est-ce qui nous... Voilà, on n'a pas l'impression que justement cette démocratie se sauvera. Il y en a même qui vont jusqu'à dire qu'en France, en Europe, on basculerait vers un changement de régime. Vous y croyez ?
Pour revenir sur les politiques, je pense que la question de l'éthique, de l'intégrité est une question qui est au cœur et qui a toujours été au cœur. Et moi, quand j'écoute, je me dis mais non. Moi, il y a des politiques que j'aime et des politiques que j'admire pour leur éthique et leur intégrité, sans forcément être d'accord avec tout. J'ai eu le privilège de travailler avec Barack Obama en tant que fellow de sa fondation pendant un an. Il a fait plein de choses que je désapprouve énormément. Et puis quand j'ai eu l'opportunité de poser ces questions-là, pourquoi les drones sur mes copains en Syrie ? Pourquoi le fils de mon pote, il est mort, un bébé ? J'avais en face de moi un humain qui me répondait avec ses arguments qui sont les siens, qui sont ceux des États-Unis, qui sont plein de choses. Mais ça reste une personnalité politique que j'admire de par sa droiture, de par son éthique. Je pense aussi à Sanna Marin, qui a été première ministre de Finlande, Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, Helen Sirleaf Johnson, prix Nobel de la paix, ex-présidente du Libéria. Au fil du temps, on voit des personnes dont la droiture, l'éthique, l'intégrité priment sur tout le reste, sur l'hubris, sur l'ego. Et aujourd'hui encore, je vois des politiques en France dont j'admire l'intégrité, l'éthique. Alors, je pourrais citer évidemment Benoît Hamon, qui en plus aujourd'hui dirige Singa.
Qui vous a succédé.
Oui. Comme directeur de Singa Global, Najat Vallaud-Belkacem, mais je peux aussi citer des gens comme Aurélien Pradier qui actuellement, je trouve, force le respect de par son éthique et son intégrité. C'est peut-être lié aussi à mes idées politiques, mais je crois que cette droiture-là, elle est fondamentale et elle est très importante.
On va devoir arrêter cette émission, mais je brûle de poser la dernière question quand même.
Allez-y, je vous en prie.
Quand est-ce que vous présentez une élection, Alice Barbe ? Alors, je sais que vous l'avez déjà fait par le passé, dans la région Île-de-France, mais...
Oui, mais c'était en 2015, j'avais moins de 30 ans.
Ça n'avait pas bien marché, mais...
Pécresse a gagné, la liste sur laquelle j'étais.
Mais est-ce que vous allez remettre le couvert ?
Absolument, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je ne veux pas aller en politique pour faire de la politique, mais il serait bien hypocrite de ma part de créer une école pour accompagner une nouvelle génération de leaders politiques sans moi-même avoir envie et me sentant suffisamment légitime pour incarner des combats. Aujourd'hui...
Est-ce qu'il y a un site internet de l'école ?
Academiedesfuturleaders.com, on cherche notre prochaine promo, c'est uniquement sur nomination.
D'accord, Academiedesfuturleaders.com, Baptiste, on va mettre l'URL, le site, sur le podcast.
Il faut nominer.
Vous aurez simplement à cliquer.
Notre future promo.
Ok, comment on peut vous soutenir ?
Très honnêtement, avec de l'argent.
Ouais,
notre gros sujet aujourd'hui, c'est qu'on est sur un...
On peut faire des dons ?
Il faut faire des dons. La démocratie...
Il y a un statut associatif ?
Absolument.
Donc je peux déduire fiscalement ?
Oui.
Donc j'ai 66% de réduction d'impôts.
Absolument. Voilà.
66, je reçois le reçu CERFA, je peux verser des fonds et des dons
et
à l'association.
Et on est apartisan.
Voilà.
On est affilié à aucun parti.
D'accord. Bah, moi, je vais le faire. Voilà.
Oh, merci.
Voilà. Merci, Alice-Barre.
Merci beaucoup, Alice-Barre. Merci, Sylvain. À tout de suite sur Radio Imo.
L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème « Demain ne meurt jamais », un événement organisé par le MEDEF les 28 et 29 août 2023 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.